Bonjour chers auditeurs, nous voici donc pour l'émission Réussir sa vie. C'est Guy au microphone et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Roger Vendôme. Bonjour Roger.
Bonjour Guy.
Roger, qui es-tu ?
Qui je suis ? Mais ça va commencer par mon nom bien sûr, donc Roger Vendôme, être humain, mâle. Vivant à Toronto depuis 18 ans, né en Afrique, élevé en Afrique avec une passion pour ce continent. J'ai voyagé un petit peu à travers le monde entier.
Ça t'a tenu occupé quand même ces 18 ans, là, t'as quand même fait un cheminement intéressant.
Oui, 18 ans à Toronto, ça a été la plus longue période que j'ai passée au même endroit. Avant d'être à Toronto, je n'étais jamais resté plus de 5 ans au même endroit. Toronto doit me plaire, je suppose.
Oui, c'est un bon point de chute pour continuer sa vie et certainement réussir sa vie. Et justement, à cause de tes expériences et tes voyages africains, tu as choisi comme première chanson une chanson de la Côte d'Ivoire, Zouglou.
C'est du Zouglou, le Zouglou qui est assez proche du coupé décalé, et qui sont les rythmes ivoiriens qui ont bercé mon enfance et qui ont ces premiers rythmes sur lesquels j'ai dansé quand j'étais adolescent.
Bien, c'est dommage que tu puisses pas nous donner une démonstration, mais...
C'est surtout dommage pour ceux qui ne sont pas dans le studio, parce que je pense pas pouvoir résister.
Merci Roger, donc on y va avec Zouglou. À tout de suite.
J'allais non en couleur, bleu l'année, bleu Brigitte, agissent humains. Petit Yodé, il a levé le petit. La Fasiro, il a fait frère la fin. Mon doyen a vu ça, il s'est appelé Fécassé.
Aolé.
Héri patron, tu vas toujours t'imposer. Magistice, tu verras le tout du monde.
Moi j'ai choisi le magnifique. Dieu va me donner un pied. Je vais vous donner un pied dedans aussi. C'est là qu'il est là-haut.
Son nom, elle va dire grâce au cerf. Va nous mambo. Une petite fille pour un petit moment, tu t'appelles comment elle va dire que le matin. Arrêtez d'appeler vos enfants l'évier ou bien la vieille. Parce que quand ils jouent à leurs camarades, ils ont toujours comportement de vieux. L'unique, toi tu seras toujours unique dans ton genre. Il n'y a pas l'autre.
De retour avec Roger Vendôme. Alors, Roger, réussir sa vie, c'est bien compliqué, ça. En fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air, j'ai l'impression.
Oui, c'est plus compliqué. Lorsqu'on en avait discuté au départ, en préparation de cette émission, tu m'avais dit que tu voulais faire la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. J'ai trouvé cette approche intéressante. J'y ai réfléchi un petit peu et je pense qu'au départ, ce qui est intéressant, c'est de voir deux notions complètement différentes. Réussir dans la vie, à mon sens, c'est une notion sociale, et réussir sa vie est une notion personnelle. Comme on en avait discuté un petit peu, je pense qu'il est important, si on veut discuter et débattre de ces deux notions qui sont fondamentalement différentes, de commencer à définir un petit peu les termes de façon à être sûr qu'on parle de la même chose. Et dans la question et dans la rhétorique de réussir, il est intéressant de comprendre ce qu'il y a derrière le mot réussir. Et pour moi, quand on pense réussir quelque chose, ça veut dire que l'on a des objectifs au départ. Il y a donc forcément un objectif qu'on s'est fixé. Et là, on peut être amené à se poser la question, quels sont les objectifs que l'on peut être amené à se fixer pour, d'un côté, réussir dans la vie, dans une notion sociale, ou réussir sa vie dans une notion personnelle. Je pense que le plus simple à définir, parce que c'est certainement le moins complexe, c'est réussir dans la vie. Cette notion sociale de réussir dans la vie qui doit répondre à un certain nombre d'objectifs et donc d'objectifs sociaux qui sont en général fonction de la perception du groupe. Alors on peut débattre beaucoup de ces sujets, mais ces objectifs sociaux, qu'est-ce qu'ils peuvent être? En général, je pense que c'est une notion de reconnaissance. Je crois que tous les êtres humains ont besoin de reconnaissance. Alors on peut s'interroger sur l'origine de ce besoin de reconnaissance. Est-ce que c'est un besoin de sécurisation? Est-ce que ça a trait un petit peu à l'ego, à une faiblesse inhérente à l'être humain? Mais on a ce besoin de reconnaissance du groupe. Donc, besoin de reconnaissance du groupe, un besoin de contribution. C'est-à-dire que cette reconnaissance passera par la contribution. Je crois qu'il y a des aspects positifs et des aspects un petit peu moins. L'aspect positif de la reconnaissance du groupe, c'est lorsqu'on a la volonté justement de contribuer au groupe, d'apporter quelque chose. Et à ce moment-là, on va être reconnu par le groupe pour ce que l'on y apporte et nos contributions. Et puis, il y a des aspects un petit peu plus négatifs, qui sont la reconnaissance du groupe simplement parce qu'on se fond dans le groupe. Et là, ça a trait à des aspects de la vie sociale et des faiblesses de l'être humain qui sont un petit peu plus délicates. qui ont beaucoup été utilisés par les sociétés marketing. D'ailleurs, c'est une des choses pas très très jolies que certaines fonctions marketing font, c'est jouer sur la faiblesse de l'être humain, de sa volonté d'être reconnu par le groupe. C'est très utilisé par les marques, par exemple. La volonté d'afficher une marque est en fait la volonté d'être reconnu par le groupe. C'est utiliser une des faiblesses humaines. Donc ça peut faire partie de ces critères de réussite. Certaines personnes peuvent éventuellement effectivement dire j'ai réussi dans la vie parce que je réponds à un certain nombre de critères, un peu comme un scorecard. J'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai un beau compte en banque, j'ai un boulot qui est reconnu. Et puis c'est là où on arrive un petit peu sur une notion sur laquelle je me suis interrogé un petit peu, qui est aussi la notion des honneurs. On a trait, et là on touche aussi à l'ego. On fera la différence d'ailleurs entre les honneurs au pluriel et l'honneur au singulier, qui touche les deux domaines. Donc on peut éventuellement avoir cette tendance à rechercher les honneurs qui sont la matérialisation de la reconnaissance du groupe.
Donc on mène les deux en parallèle, mais il y a des points de recoupement.
Il y a forcément des points de recoupement, puisque je pense que dans les points de recoupement, il y a probablement les notions d'éthique et de valeur morale, dont on a du mal à se défaire. Ça fait partie de notre éducation au départ. Ça fait partie de ce avec quoi on se construit tout à fait au début, et ça, c'est pratiquement impossible de s'en défaire. Et c'est probablement ce qui va amener le matériau et la fondation à l'autre aspect, donc qui est de réussir sa vie, et qui est une notion beaucoup plus personnelle. Alors quels peuvent être les objectifs personnels qui peuvent amener quelqu'un à dire qu'il a réussi sa vie? Ça, c'est une autre question beaucoup plus lourde.
Très bien, j'aimerais qu'on passe à la musique que tu as choisie. On va revenir là-dessus parce que c'est le sujet de l'émission. Mais je suis content que tu aies amené le sujet de la reconnaissance, parce que il y a plusieurs manières d'obtenir la reconnaissance. Et quand tu parles de société marketing, il y a le mot manipulation qui surgit tout d'un coup là. Donc on a certainement beaucoup de choses à discuter. Roger, tu as choisi une musique religieuse. Pour le prochain morceau.
Oui, plus qu'une musique religieuse, une musique sacrée.
C'est important. Donc c'est les moines du Bec.
Les moines de l'abbaye du Bec et loin. Oui,
qui est en Normandie, je crois. Hein?
Oui.
Très bien. Alors on va. Je trouve ça très très joli et très aérien. Merci de ce choix. On se revoit tout de suite. De retour avec Roger Vendôme sur Choc FM dans l'émission Réussir sa vie. Alors Roger, on s'était laissé avant ce morceau de musique sur réussir sa vie, justement par rapport à la réussite sociale, mais maintenant on va parler de réussir sa vie.
Oui, et pour rebondir justement sur la musique qu'on vient d'écouter, qui après le morceau de Zouglou, qui peut paraître un petit peu éclectique, je pense que au début, dans le concept de réussir sa vie, il y a les fondamentaux que l'on reçoit, les valeurs morales, on en a discuté tout à l'heure, et qui viennent fondamentalement et inévitablement de l'éducation qu'on reçoit. Donc pour faire un lien avec la musique qu'on a écoutée, je suis né en Afrique, j'ai été élevé en Afrique, et donc je crois que les premiers éléments d'éducation qu'on reçoit viennent de sa famille, de son entourage, de son enfance. Et donc toutes les premières valeurs, les premières structures que j'ai pu recevoir viennent de mes parents et de mon entourage familial. On a beaucoup voyagé, mais avec une grosse partie de notre vie passée en Afrique, entre le Sénégal, le Cameroun et majoritairement la Côte d'Ivoire. Donc j'ai un gros faible pour la Côte d'Ivoire, qui est un pays absolument magnifique, et les Ivoiriens qui sont des gens extraordinaires, des gens charmants. Et j'ai donc passé toute mon enfance, et ça a été un des points structurants au départ. Ensuite, je suis arrivé en France très jeune, j'avais 14 ans, lorsque je suis rentré en pension chez les pères, dans un pensionnat catholique, chez les moines oratoriens à Pontoise, dans la banlieue parisienne. Et là, donc, on passait beaucoup de temps en retraite à l'abbaye du Bec-et-Loin, et c'est là que j'ai acquis cette sensibilité pour les chants grégoriens, et en particulier pour cette communauté monastique du Bec-et-Loin qui est assez extraordinaire. C'est important. Je me souviens d'une réflexion un jour d'un des pères du collège qui me disait ça fait du bien et c'est rassurant de savoir que dans le monde il y a des groupes d'individus qui en permanence a pris pour le reste de l'humanité. Ce sont des générateurs d'énergie, des générateurs d'énergie positive. Et c'est important et rassurant de le savoir. Donc ça aussi, ça fait partie d'une expérience importante, une expérience très 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 structurante. Et puis ensuite, il y a la deuxième partie. J'ai la chance d'avoir eu plusieurs vies, et pour des raisons dont on discutera peut-être éventuellement un peu après, parce que c'est la vie est parfois complexe et compliqué, prendre des tournants inattendus. Et un des tournants inattendus dans ma vie, ça a été la vie militaire. L'armée a pris une importance énorme dans ma vie, et de façon complètement inattendue. Il se trouvait simplement que à ce moment-là, en France, le service militaire était encore obligatoire. J'ai donc fait mon service militaire dans des circonstances là aussi inattendues. J'ai fait des choses très intéressantes. Je me suis retrouvé de façon un peu surprenante parce que je sortais d'université avec une maîtrise de génie génétique. J'avais les cheveux longs aux épaules, l'arrêt au milieu, je portais des lunettes et je jouais de la guitare. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé chef de section de combat dans un régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Ça pique aux yeux un peu au début, ça fait drôle. Et non seulement je m'y suis fait, mais j'ai beaucoup aimé. J'y ai trouvé une expérience humaine hors du commun, qui fait que j'y suis resté plus longtemps que prévu. J'ai été volontaire ensuite pour rester dans ce régiment pendant plusieurs années. Et ça a été une partie vraiment très très importante de ma vie, et pour le moins structurante. Ça c'est certain. Donc je pense que il est important de le préciser de façon à comprendre un petit peu après le questionnement qu'on peut être amené à se poser et les choix qui sont faits. Et là je pense d'ailleurs que c'est un mot important qui a été lâché, qui est le mot de choix. Lorsqu'on peut estimer, ou quand on se pose la question de savoir si on a réussi sa vie, je crois qu'il y a trois éléments de réponse. Il y a d'abord la réponse évidente en termes de oui ou non, qui à mon sens n'est jamais ni oui ni non, on est quelque part au milieu. Je pense qu'il est assez rare de pouvoir dire non, j'ai pas du tout réussi ma vie. Il y a toujours quelque chose de positif dans une vie. Dire de façon assertive oui, j'ai réussi ma vie, peut-être un tout petit peu, tout petit manque d'humilité. Donc on est, je pense, quelque part entre les deux. Mais les questions importantes, je pense que ce sont les questions suivantes. C'est qu'on ait répondu oui ou non. La question suivante, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est oui ou non? Et une question encore plus importante, c'est comment? Comment est-ce qu'on y est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que on est là où on est aujourd'hui au fur et à mesure des expériences? Et c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Donc on arrive à ce concept de choix, de décision. Et je suis absolument fasciné par la façon dont un être humain prend des décisions. Ça a été un de mes sujets de recherche pendant des années, ça l'est encore. C'est un sujet absolument fascinant. de savoir comment est-ce qu'on va prendre une décision. Alors il y a des décisions triviales, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, comment est-ce que je vais choisir le parfum de ma glace. Et puis il y a des décisions beaucoup plus lourdes, bien entendu, qui sont très très lourdes de conséquences et qui vont définir une vie. Mais on s'aperçoit également qu'en parallèle de ces décisions que l'on prend, la conséquence de la décision, ce qui va véritablement se passer, très souvent nous échappe. Il y a tout ce que l'on peut appeler les concours de circonstances, le hasard, qui joue une place tellement importante dans nos vies, dans ce que l'on devient, en addition des choix que l'on fait. C'est quelque chose que je dis souvent à mes étudiants. J'enseigne le business analytics à l'Université de Toronto. Et je suis un analyste forcené.
J'avais remarqué. Voilà,
c'est très important.
Il y a une certaine science dans tout ce que tu dis là. Je me demandais quelle était l'équation. Oui.
j'ai tendance à analyser, à beaucoup analyser les choses et en particulier analyser mes propres réflexions. Et je crois qu'on a une tendance dans le monde occidental à juger les choix que l'on fait par leurs conséquences et par leurs résultats. Et c'est en fait très... comment est-ce qu'on dit en français ? Obnoxious.
Prétentieux.
Prétentieux, merci.
Oui.
c'est en fait très très prétentieux parce que, en fait, ça implique que l'on a une action, un pouvoir quelconque sur ce qui va se passer. En fait, on l'a pas du tout. On fait un choix, mais après, on décide pas de grand chose. Les choses se passent. Donc, il arrive que l'on punisse quelqu'un parce que les conséquences de son choix ont été catastrophiques, mais c'est qu'il y a en fait une personne qui a fait le meilleur choix possible à ce moment-là. Mais qui simplement n'a pas eu de chance, les choses se sont pas passées comme prévu. Et il arrive à l'inverse que l'on encense des personnes qui ont pris des décisions complètement aberrantes, des décisions folles, mais qui ont beaucoup de chance à ce moment-là et les choses se sont bien passées. Et l'histoire est pleine de ces exemples. Donc quand on revient un petit peu en arrière, c'est un exercice intéressant de revenir en arrière et de se dire quels ont été les tournants décisifs, quels ont été les choix et les événements décisifs qui ont fait que l'on est arrivé ici. Et j'en ai plusieurs qui peuvent me venir à l'esprit. Donc si on revient par exemple dans le domaine militaire, il y a un homme dont je me souviens encore qui sans véritablement le savoir, a eu un impact monumental sur ce qui a été ma vie. C'est celui qui a décidé que j'irai dans un régiment parachutiste, parce qu'en fait, je pouvais pas, comme je le disais tout à l'heure, vous aviez pu être prêté attention, j'avais les cheveux longs, mais je portais des lunettes, et c'était donc rédhibitoire. Mais je faisais du parachutisme civil à ce moment-là, je faisais de la chute libre en tant que sport. Et donc j'avais très envie de voir comment est-ce que ça se passait dans le domaine militaire. Et c'est lui qui a pris l'initiative de changer mon dossier, de modifier le chiffre sur mon dossier, et qui a fait en sorte que j'ai pu à ce moment-là rejoindre un régiment parachutiste. Et ça a été un des tournants majeurs de ma vie, bien sûr.
C'est intéressant cette notion de prendre des décisions, le libre choix, et y a-t-il des coïncidences ?
Grande question. Oui, il y a des coïncidences, bien sûr. Il y a des coïncidences, il y a du hasard, il y a de la chance.
Qu'est-ce que c'est
le hasard ? Je crois que c'est Einstein qui disait le hasard, c'est lorsque Dieu veut être incognito.
Ah, magnifique. Pour la prochaine chanson, tu as choisi une référence militaire. Et ce que j'aime beaucoup dans la progression que tu nous as décrite, c'est d'abord une éducation religieuse, des études scientifiques et une carrière militaire qui a commencé presque par hasard.
Ah, tout à fait par hasard, absolument.
Donc tu as choisi la prière du parachutiste, Marie-Dominique.
Alors la prière du parachutiste, en fait deux chants militaires, la prière du parachutiste qui est donc parachutiste et Marie-Dominique qui est un chant de tradition des troupes de marine, puisque j'ai eu la chance de servir dans les parachutistes de troupes de marine, donc deux choses complémentaires. La prière du parachutiste est quelque chose de très cher au cœur des parachutistes, c'est un texte magnifique. Qui a été écrit par un jeune aspirant qui s'appelait André Zirnelt, qui était un aspirant des forces françaises libres, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un texte qui a été retrouvé sur son corps lorsqu'il a été tué. C'était un gamin de 20 ans. Et on a retrouvé ce texte sur son corps, un texte tellement magnifique que on en a fait donc officiellement la prière du parachutiste et il a été mis en musique et c'est ce qu'on va entendre.
Merci Roger, à tout de suite. Réussir sa vie, Guy au microphone, et donc mon invité aujourd'hui est Roger Vendôme. Roger, j'ai une passion pour les éléphants, j'ai habité en Asie, ça s'explique. toi, tu as habité en Afrique, je suppose aussi que les éléphants veulent dire quelque chose d'important pour toi, mais j'aime toujours, dans le contexte de ma vie ici aujourd'hui au Canada, de savoir ou d'essayer d'identifier quel est l'éléphant dans la pièce.
On parlait dans ce contexte de réussir sa vie, on parlait des objectifs personnels. Je pense que les objectifs personnels sont très dépendants des valeurs morales et donc des croyances. Et effectivement, l'éléphant dans la pièce, à mon sens, c'est la mort. Alors ça fait très pivot. Et la mort dans tout ça.
On va y venir.
Et la mort dans tout ça.
Oui.
Absolument.
Bonne question.
C'est mes grands souvenirs de d'écouter Apostrophe à la grande époque. C'est vrai que en fait. Il y a deux possibilités. On peut définir ses valeurs, ses objectifs et ses structures par rapport à un contexte simplement d'une vie qui s'arrête au moment où elle s'arrête, et donc ici et maintenant. Ou on peut la définir en fonction de quelque chose de plus grand et d'une conception d'une vie qui n'est qu'une étape et qu'il y a quelque chose derrière. Donc ce sont deux différences fondamentales qui dépendent de la foi et des croyances de chacun. Il n'y en a pas forcément besoin d'avoir une croyance religieuse pour y croire et penser de cette façon-là. Donc c'est un peu ma façon de voir. Je suis intimement persuadé qu'on est là de passage, et qu'il y a quelque chose après de d'indéfinissable. Et s'il y a quelque chose après, les objectifs de notre passage doivent être éventuellement de réaliser quelque chose. Alors ça reste un grand mystère. Quoi? Mais je pense que ce sont les fondamentaux de notre structure et de ces valeurs morales. Alors il y a deux aspects aux valeurs morales. Il y a un aspect social, bien entendu, puisque ça permet de structurer des individus qui sont appelés à vivre ensemble. Et puis il y a un aspect personnel, très très individuel et très personnel, d'une réalisation personnelle. Alors il y a plein d'éléments, bien entendu, il y a plein de sujets de réflexion à ce niveau-là, mais ça devient assez vite complexe, parce que là on est dans l'inconnu, on est dans la foi, on est dans la croyance, donc c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est intéressant, dans les recherches que j'avais faites pour préparer cette émission, quelque chose qui m'était venu à l'esprit, c'est l'antithèse des objectifs que l'on se fixe et qui sont érigés par la religion catholique en particulier, ou par la religion chrétienne, comme les sept péchés capitaux. Et je suis retourné voir quels étaient les sept péchés capitaux, parce qu'ils ne sont pas en permanence dans mon esprit. Et ils sont en fait l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ils touchent aux deux mondes, parce que l'orgueil et l'avarice sont du niveau social. Et c'est l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse qui sont au niveau personnel. Et donc on touche aux deux mondes, à ces deux aspects de notions sociales et de notions personnelles, de réussir sa vie et de réussir dans sa vie. J'ai trouvé assez intéressant.
Je trouve ça formidable comme analogie, parce que je me demandais si la réalisation personnelle c'était un phénomène récent. Tu as une excellente connaissance de l'histoire avec un grand H, et c'est intéressant comme réflexion.
Oui, ça n'est pas récent, effectivement. On la retrouve dans ces recherches que j'ai faites. J'ai été amené à retrouver la définition de l'honnête homme du XVIIe siècle, qui m'était revenu, et donc je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé assez facilement, bien entendu. Aujourd'hui, avec Google, on a tout à portée de main, et à portée de clavier en tout cas. Et donc j'ai retrouvé la définition de l'honnête homme au XVIIe siècle, qui est celui qui a une, et je lis, à celui qui a une culture générale étendue et les qualités sociales propres à le rendre agréable, en faisant preuve d'une aisance sociale conforme à l'idéal du moment. Homme de cour et homme du monde, il se doit de se montrer humble, courtois et cultivé, mais aussi de pouvoir s'adapter à son entourage. Au nom de la nature, il refuse tout excès et sait dominer ses émotions.
Ça ressemble drôlement à ce qu'on essaye de définir par, excuse l'anglicisme, les soft skills. Donc rien de nouveau sous le soleil. 17e siècle, tu dis.
17e siècle, mais hérité, en fait, d'un concept grec qui est le concept du kaios kaiagatos de la Grèce antique. Et qui est ce concept très équivalent à celui donc de l'honnête homme, et que l'on retrouve dans les écrits de Xénophon. Alors Xénophon est un être assez un personnage assez extraordinaire qui a en particulier est connu en particulier pour avoir écrit l'Anabase, mais qui est souvent ignoré le premier rédacteur d'un traité de leadership et d'un traité d'économie. Donc c'est le plus ancien, parce qu'elle a été écrite en 400 avant Jésus-Christ. Xénophon, en 400 avant Jésus-Christ, a écrit un traité d'économie sur la façon de gérer une ferme, une maison, donc un foyer. Et un traité de leadership qui est l'Anabase. Alors c'est une histoire extraordinaire, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est intéressant de voir comment aussi parfois l'histoire se renouvelle. C'est l'histoire des 10 000. On la connaît comme étant l'histoire des 10 000 ou de l'armée perdue. On se retrouve au Moyen-Orient, encore une fois, en Perse. On a Darius qui est donc le roi de Perse à ce moment-là et qui a deux fils. Il envoie Cyrus en Grèce et à sa mort, c'est le fils aîné, Artaxerxès, qui prend la suite. Et bien entendu, il y a un conflit entre les deux frères. Donc Cyrus veut retourner en Perse et renverser son frère et demande pour cela l'aide de mercenaires grecs. Donc les Grecs sont à ce moment-là sur le marché de l'emploi en tant que mercenaires, puisqu'ils sortent tout juste de la guerre du Péloponnèse. Les structures grecques sont un peu vacillantes. Et donc des mercenaires spartiates et athéniens le suivent. Donc 10 000 mercenaires grecs traversent tout le Moyen-Orient à pied pour aller se battre. Le lieu de la bataille est intéressant. Il est aujourd'hui défini sur une carte comme étant la ville de Fallujah. Donc c'est pour ça que je dis que l'histoire se répète. Et l'armée de Cyrus est défaite et les mercenaires grecs se retrouvent tout seuls à devoir rentrer à pied en Grèce. L'armée d'Ataxerxès tend une embuscade aux Grecs et décime totalement tout leur leadership. Donc tous les officiers, tous les leaders de l'armée grecque sont tués. Et la troupe se retrouve sans aucun leadership, sans aucun commandement. Et donc là, ils se retournent vers un personnage qui est Xénophon. Et Xénophon faisait partie de la troupe simplement parce que c'était un intellectuel. Il était là pour écrire le récit, à prendre des notes. C'est le seul qui savait écrire. Et donc ils le regardent tous en disant, c'est toi qui sais écrire, donc tu es plus intelligent que nous, donc c'est toi qui vas nous diriger. Et il devient comme ça du jour au lendemain le chef de 10 000 mercenaires grecs qu'il doit conduire à travers toutes les contrées du Moyen-Orient pour rentrer en Grèce. C'est une aventure absolument extraordinaire. C'est un livre extraordinaire à lire. Et donc, c'est lui qui, dans ce livre, commence, dans ce premier traité de leadership, décrit un personnage qui est celui d'Ichomaque, qui a servi de modèle à l'honnête homme du XVIIe siècle. Donc, c'est pas nouveau.
Ah. Je voudrais faire un lien avec ton prochain choix de chanson, Le Déserteur.
Oui, alors le déserteur après c'est amusant parce que en fait très souvent je disais il n'y a que les militaires qui ont le droit d'être antimilitaristes parce que ce sont les seuls qui savent de quoi ils parlent et certainement les militaires et en particulier ceux qui ont connu des expériences de combat, ce qui a été mon cas, leur dernière envie c'est de recommencer, donc ce sont certainement les moins va-t-en guerre. On retrouve assez souvent aujourd'hui malheureusement dans l'actualité les va-t-en-guerre que l'on va trouver sont ceux qui n'iront pas. Et c'est assez facile d'envoyer les autres se battre. Et c'est en fait une expérience. Un jour, lorsque j'étais militaire, donc j'étais jeune, j'avais 24 ans, j'étais avec des amis dans un restaurant. Et nous étions en uniforme à ce moment-là. Et à une table à côté, il y avait une table de personnes du même âge qui, un peu par provocation, ont commencé à chanter les déserteurs. Malheureusement pour eux, et comme souvent ça arrive, ils ont commencé à chanter le déserteur. Ils ont chanté les deux premières phrases du premier couplet et puis se sont arrêtés parce que personne ne se souvenait des paroles. Et donc avec mes amis, on les a aidés, on a chanté la chanson en entier, puisqu'on la connaissait par cœur.
Belle leçon. Merci Roger, à tout de suite, on revient après cette chanson.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière luit, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle sur son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Des parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil. La main sur sa poitrine, tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
De retour à l'émission Réussir sa vie avec Roger Vendôme aujourd'hui. Roger, j'ai une question, peut-être une allusion un peu militaire. Quel est ton cheval de bataille?
Le cheval de bataille, je peux en avoir plusieurs. Mais en y réfléchissant, je pense qu'il y en a un qui me tient à cœur. C'est celui de l'apprentissage ou de la lutte contre l'ignorance. Je suis intimement persuadé que aujourd'hui, l'ignorance est la pire ennemie de l'espèce humaine. Et que l'ignorance est à la source de la majorité des problèmes que l'on peut aujourd'hui rencontrer au niveau social, à la source des conflits, à la source des guerres, parce qu'on n'a pas fait l'effort de comprendre, parce qu'on n'a pas fait l'effort de rechercher, on n'a pas fait l'effort de savoir. Et en parlant d'effort, justement, je pense qu'à l'origine, beaucoup à l'origine de l'ignorance, il y a ce que j'appelle la paresse intellectuelle. Je peux éventuellement avoir une certaine complaisance vis-à-vis de la paresse physique. Ça m'arrive, comme à tout un chacun. La paresse intellectuelle, on ne peut pas avoir de pitié pour la paresse intellectuelle parce que les conséquences sont trop lourdes. La conséquence de la paresse intellectuelle, c'est l'ignorance. Et l'ignorance mène les individus à prendre des décisions. Et des mauvaises décisions, parce qu'elles sont prises à travers des éléments soit faux, soit incomplets. Et on le voit dans tous les domaines. On parlera pas de politique, mais on voit bien quelles en sont les conséquences aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel j'essaye de me battre en essayant de convaincre les gens, en enseignant. C'est une grande partie de ma vie. Aujourd'hui, j'enseigne dans deux institutions différentes. J'enseigne à l'Université de Toronto, ce qui est aujourd'hui mon activité professionnelle, qui est business analytics, prendre des données et en tirer des éléments de savoir pour aider les personnes à prendre de meilleures décisions à travers des modélisations mathématiques de données. Mais j'enseigne également au Collège des Forces canadiennes, qui est l'équivalent de l'école de guerre pour le Canada. Et donc j'enseigne à des officiers supérieurs à prendre des décisions, à planifier des batailles et donc à prendre des décisions. Les conséquences sont un petit peu différentes, bien entendu. Donc en enseignant, j'essaye de convaincre les personnes que je croise et que j'ai la chance de côtoyer. De faire l'effort d'aller chercher, de creuser et de pouvoir ainsi avoir un jugement personnel et non pas se faire imposer un jugement par ceux qui prétendent savoir. Ça, c'est la solution de facilité. Je ne veux pas faire l'effort de chercher moi-même, donc je vais accepter ce qui m'est proposé, qui en fait m'est imposé. Trop facile et dangereux. Donc il faut faire l'effort de faire des recherches et effectivement c'est un effort. Apprendre est un effort. On a un peu trop tendance, je pense, à vouloir faire croire que on peut apprendre sans effort. Je pense que c'est un discours démagogue. L'apprentissage se fait obligatoirement par un effort et l'effort de temps en temps, l'effort ça fait mal. Parce que ça va à l'encontre de ce que l'on voudrait faire naturellement. Je l'ai vu dans une quantité de circonstances et de domaines, non seulement dans le domaine de l'apprentissage universitaire, l'apprentissage d'un savoir intellectuel, mais également l'apprentissage physique. Je reviendrai brièvement sur ma période militaire où une grosse partie du travail d'un officier qui commande une section de combat, c'est bien entendu d'entraîner ses hommes. Et entraîner ses hommes, c'est leur apprendre. Et on a un dicton qui est « la sueur épargne le sang ». Donc il faut apprendre encore, s'entraîner le plus possible Et ça demande des efforts, bien entendu. Ça demande des efforts et ça fait mal. Mais il y a que comme ça, il y a que comme ça qu'on y arrive. Donc, je pense que effectivement, le goût de l'effort est quelque chose qui est, c'est un magnifique cadeau à donner. En particulier à des enfants dans le domaine de l'éducation, le goût de l'effort est quelque chose qu'on retrouve chez les sportifs, par exemple, les sportifs de haut niveau, qui sont des gens que j'admire énormément, parce qu'on a beaucoup de on a parfois du mal à s'imaginer l'effort et le sacrifice que cela demande.
Alors, en plus d'enseigner, tu aides les entreprises aussi?
Oui, j'aide les entreprises. C'est mon travail. C'est mon travail en tant que consultant indépendant, de regarder les données que les entreprises ont pu accumuler, de les analyser avec des outils mathématiques, des outils statistiques, et d'en extraire les informations, le savoir qui va permettre à ces entreprises de prendre de meilleures décisions, et tout cela dans un cadre stratégique. Donc il y a un fil rouge. Beaucoup de personnes me disent mais vous avez une vie un peu hétéroclite, en tout cas pas en ligne droite. Une formation de génie génétique au départ, une carrière militaire, ensuite une carrière dans la finance et aujourd'hui dans ce monde qu'on appelle aujourd'hui le big data, sans trop savoir ce qu'on y met derrière. Mais en fait, il y a un fil rouge. Et le fil rouge est toujours le même, qui est celui de récupérer des informations, de leur donner du sens, et de ces informations, d'en extraire le savoir nécessaire à aider quelqu'un à prendre une décision. Puisque dans l'armée, j'étais également officier de renseignement, et que c'est ce que fait un officier de renseignement. Il récupère des informations, il les analyse et il aide dans le contexte d'un état-major le chef d'état-major à prendre une décision. Donc c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie. Ouais.
Alors, j'ai une belle source d'inspiration, comment réussir sa vie. Alors, j'aimerais quand même que tu partages avec nous une anecdote de voyage.
Oui, c'est le dernier morceau de musique, parce qu'on avait décidé d'être très très éclectique, et celui-ci pourra éventuellement surprendre beaucoup, parce qu'il va être beaucoup plus léger que ce que l'on a entendu précédemment. Mais c'est en fait une chanteuse française qui s'appelle Alizée, qui a été connue à un certain moment et qu'on n'entend plus maintenant, mais qui est une anecdote de voyage. C'était en 2004, je travaillais à Singapour. Et pour le compte d'une entreprise américaine, on créait un bureau de crédit à Singapour. Donc j'étais appelé à passer beaucoup beaucoup de temps à Singapour. Et un jour, à ma grande surprise, dans un bar de Singapour, j'entends cette chanson française d'Alizée, que je ne connaissais même pas à l'époque. Et tous les Singapouriens chantaient cette chanson. Et pendant tout mon séjour à Singapour, c'était le hit numéro un que j'entendais sur tous les radios et sur toutes les radios, dans tous les restaurants, dans tous les bars. C'était le hit numéro un. Et ce qui a été assez drôle, c'est que, bien entendu, ils écoutaient les paroles sans les comprendre. Et j'ai eu la mauvaise idée de leur traduire les paroles en anglais. Et quand ils se sont aperçus de l'énorme portée philosophique des paroles, malheureusement un petit peu cassé l'aura. Mais bon, c'était resté quand même le hit numéro un à ce moment-là, à Singapour en 2004.
Parfait. Alors, souvenir de Singapour. Merci Roger, à tout de suite. De retour avec Roger Vendôme. Roger, c'est la dernière ligne droite et je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler et partager tes idées. Et puis, réussir sa vie, c'est un partage d'idées entre tous les francophones et francophiles à Toronto. On finit habituellement cette émission avec le questionnaire de Bernard Pivot. Alors, allons-y.
C'est amusant parce que justement on en parlait tout à l'heure des grandes mémoires d'apostrophe, hein, qui étaient des moments bénis.
Je crois que Bernard Pivot a contribué quelque chose d'extraordinaire, parce que tous les francophones ont quelque part une référence ou une image de Bernard Pivot quelque
inévitablement
part. Ouais. Votre mot préféré?
Action.
Le mot que vous détestez?
Impossible.
Votre drogue favorite?
L'adrénaline.
Le son, le bruit que vous aimez?
Le bruit des vagues et celle de l'Atlantique en particulier.
Le son, le bruit que vous détestez?
La musique qui n'en est pas.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori?
Alors je vais vous épargner ça quand même, parce qu'on est à la radio, mais souvent ce serait « putain mais c'est pas possible ». Ma femme qui est anglophone l'a appris par cœur et me le répète assez souvent.
Bravo, félicitations. Un homme, une femme pour illustrer un nouveau billet de banque?
Ce serait quelqu'un dont on ne parle pas forcément très très souvent. Ce serait Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin a une citation que j'aime beaucoup, où il avait dit un jour, vous n'êtes pas un être humain à la recherche d'une existence spirituelle, mais vous êtes un être spirituel immergé dans une expérience humaine.
Le métier que vous n'auriez pas aimé faire?
J'ai pas envie de choquer du monde, mais parce qu'il y a forcément quelqu'un qui fera ce métier-là, mais j'aurais détesté être un comptable.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné?
Si c'était une plante, ce serait un chêne dans la forêt de Brocéliande. Si c'était un animal, ce serait mon chien. Heureux animal.
Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire?
J'aimerais bien qu'il me dise « écoute, c'était pas mal, on recommence ».
Sur ces paroles pleines d'espoir, merci Roger d'avoir pris le temps d'être avec nous. C'était un moment formidable, comme à chaque fois que je te rencontre d'ailleurs.
Merci Guy, plaisir partagé, merci à toi de m'avoir accueilli.
À bientôt.
À bientôt.
Eh bien, je vous souhaite un bon restant de la journée. C'était Réussir sa vie, au microphone Guy, et j'accueille aujourd'hui Roger Vendôme. À bientôt.